Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International sur RFI en cette fin d'après-midi avec beaucoup d'actualités ou surtout un titre, une affiche. La Juve rejoint le Barça, la finale de la Ligue des Champions. On verra s'affronter le FC Barcelone du trio magique Messi-Suarez-Neymar à la Juventus de Turin de l'éternel Gigi Buffon. Ce sera le 6 juin prochain à Berlin. Sorti par la petite porte du Real Madrid, victime de la malédiction des champions en titre, jamais aucun club n'a réussi à conserver cette Coupe des Champions depuis 1992. Les Merengues avec Cristiano Ronaldo étaient pourtant favoris a priori et sur le papier, mais ils sont dans une mauvaise passe face à des Turinois eux surprenants et très efficaces. La joie en Italie, dans un pays donc où le football est victime de la crise économique et où seule la Juventus de Turin fait honneur à la tradition et à la passion italienne. Alors, comment être patient et faire du neuf avec du vieux? Nous le verrons à l'image de Gigi Buffon et nous le verrons notamment avec Matteo Cioffi, notre correspondant en Italie et notre Italien surtout de Radio Foot. Un troisième super classico à Buenos Aires, du côté de l'Amérique du Sud cette fois. Rendez-vous à la Bombonera pour un nouvel affrontement Boca Juniors River Plate. 100% argentin, ce rendez-vous dans la compétition sud-américaine Copa Libertadores. Carlos Bianchi nous parlera de cette rencontre toujours très chaude et voire rugueuse. Invité dans ce studio aujourd'hui pour évoquer tous ces sujets, nous avons Dominique Sévrac du Parisien. Bonjour Dominique.
Bonsoir, il y a déjà une finale de Ligue des Champions à 18h française en Allemagne entre le PSG et Francfort.
En plus, toujours des finales finalement, c'est la fin d'année, c'est normal.
Ligue des Champions féminines,
féminine.
Oui, dont rêveraient les hommes, bien sûr, du PSG. Jean-Philippe Bouchard de l'équipe, bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Olivier Pron est à mes côtés, bonjour Olivier, vous l'avez déjà entendu.
Bonjour à tous, bonjour Annie.
Radio Foot, c'est parti. Comme on ne s'en lasse pas, eh bien on écoute à nouveau ce but égalisateur des Italiens hier, qui les a donc qualifiés, cette Juve.
Poi c'è Vidal che rimette in mezzo Pogba in area di rigore di testa Morata tiro rete Morata e il canterano pareggia per la Juve al tredicesimo minuto nel corso del secondo tempo cambia il parziale osserva.
La Juve, la Juventus de Turin qui retrouve la finale de la Ligue des Champions pour la 8e fois de son histoire. La vieille dame s'est offert la chance de pouvoir remporter une 3e coupe. Ce club qui en a déjà gagné une en 85, une autre en 96, deux gagnées sur donc cette finale disputée. Une ambiance chaude que vous connaissez, Olivier, dans ce stade de Turin. C'est ce qu'on entendait là, c'est la chanson, l'hymne qui accueille chaque fois les joueurs.
Oui, oui, qui est reprise en cœur. Ça fait plaisir de voir un club comme la Juve en finale parce que, alors c'est pas le cas, tiens, pour parler du Paris Saint-Germain, d'un club que Dominique connaît bien. À la Juve, il y a un vrai public de connaisseurs, de gens qui sont là depuis, qui sont pas là par hasard, qui sont pas là pour se faire voir, qui sont là depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, et pour être allé assister au quart de finale contre Monaco, c'est vrai qu'on les entend. Ils sont tout près de nous dans la tribune de presse et on les entend avec ce langage fleuri et si particulier qu'ont les Italiens. Ça commente beaucoup, ça vit le match. Et c'est vrai que cet hymne, que ce soit au début ou à la fin des matchs, ben voilà, ça fait chaud au cœur. J'espère qu'on l'entendra à Berlin.
On reviendra sur la partie italienne.
Moi, je veux dire à Olivier qu'avant on avait un public, mais on n'avait pas d'équipe à Paris. Désormais, il y a une équipe et il n'y a pas de public. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut.
Bah, je ne sais pas non plus.
Bah, on en parlera tout à l'heure avec Matteo parce que justement, il aura sûrement un petit éclairage à nous donner parce que ils ont mangé leur pain blanc aussi, ces joueurs de la Juve. En tout cas, le Real Madrid, lui, a vécu une sale soirée victime de la malédiction qui frappe les tenants du titre de cette Ligue des Champions depuis que la compétition a été baptisée ainsi en 1992, ne pas préserver son titre, ne pas surtout le conserver, son titre de champion d'Europe. Alors les Merengues ont-ils été trop faibles ou bien ces Bianconeri ont-ils été trop forts? Hier soir, Sergio Ramos a sa petite explication et il avait bien sûr la tête des mauvais jours.
C'est un mauvais soir, un soir douloureux, non seulement pour le Real, mais pour nous, les joueurs. Sur le terrain, l'équipe a perdu son âme. Sans doute, après le premier but, aurions-nous dû rester agressifs et continuer à les presser pour marquer encore un deuxième but.
Dominique, qu'est-ce que vous diriez-vous ? Le Real était en dessous de son niveau ou la Juventus était trop au-dessus ?
Moi, je dirais exploit de la Juventus sur les deux matchs, mais c'est vrai que le Real Madrid a été en dessous de tout sur les deux matchs parce que ils ont raté le premier et je pensais pas qu'ils rateraient autant le deuxième. Donc quand on rate deux matchs, oui, mais contre un adversaire extrêmement fort qui est Barcelone, qui est l'archi favori de cette Ligue des Champions, c'est vrai que
la Juventus, on y reviendra, c'était pas la favorite, non, même vrai, de ces demi-finales, on s'en souvient.
Non, vous avez raison. Mais rater deux matchs, c'est rédhibitoire à ce niveau-là.
Même quand on est tenant du titre.
Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Hier, des 11 joueurs, seuls Benzema et Marcelo ont été à la hauteur. Les 9 autres ont des choses à se reprocher.
Jean-Philippe.
Oui, il y a peut-être aussi la Juve qui est pour quelque chose, parce qu'il faut quand même insister sur cette équipe qui est quand même très très bien organisée, avec des joueurs revanchards, ou en tout cas qui sont là, qui ont choisi d'être là pour se relancer pour certains, ou qui ont été recrutés de façon extrêmement intelligente, parce que enfin, nous on s'intéresse à Pogba en France, forcément. Mais Pogba, il a rien coûté à la Juve, donc finalement il était libre. Donc c'est extrêmement malin quand même.
Morata, c'est pas cher non plus.
Voilà, Morata, c'est sur le but là, on entendait Vidal, Pogba, Morata, c'est trois joueurs qui ont quasiment coûté l'équivalent peut-être de 300 000 euros. Hein, alors dans le football d'aujourd'hui où on aligne les centaines, Morata, dizaines de millions.
D'euros, Jean-Philippe.
Oui, Morata c'est une dizaine, 10-12 je crois.
Je crois que c'est 20 millions, non ?
Non, c'est moins de 20. Mais bon, de toute façon, on n'est pas dans les sommes qui sont aujourd'hui sur le
celle
marché
de l'équipe d'en face.
Voilà, on n'est pas du tout là-dedans, mais il y a quand même là, il y a un travail de l'entraîneur au niveau tactique. Alors c'est pas flamboyant, c'est sûr que c'est pas une équipe qui a marqué 100 buts dans l'année comme ça.
Sur les deux matchs, il y a aucune contestation
mais,
possible.
Mais voilà, il y a face à une équipe qui était pas très bien huilée là, comme le Real hier, qui a brouillonné, si j'ose dire, son football. Et ben voilà, la Juve, elle a réussi à une demi-heure après à égaliser ce but
c'est largement
très très cher.
Sur les deux matchs, c'est largement mérité.
57e minute, elle avait beaucoup de temps en plus pour refaire son retard à la limite.
Oui, au moins aller
cette
en équipe
du Real. Exactement.
C'est quand même plus de 70 buts en Serie A, même si en Serie A il y a la Juve et les autres. On dit souvent, c'est vrai que c'est sans doute la meilleure défense d'Europe actuellement avec le Bayern Munich, encore que le Bayern en a pris quand même quelques-uns ces derniers temps.
Jusqu'à hier, moi.
Mais
il y avait aussi le Barça qui avait une excellente défense.
Mais voilà, la Juve, on a toujours l'habitude de la voir, et c'est encore vrai cette année, très forte défensivement, meilleure défense de la Ligue des Champions, meilleure défense évidemment de la Serie A, mais c'est quand même 70 ou 71 buts, me semble-t-il, en Serie A, ce qui n'est pas si mal, mais c'est vrai que c'est une équipe d'abord bien organisée.
Je crois que le Real est à 107 en Liga. Hein.
Mais la Juve, c'était pour tout le monde au tirage, l'équipe bonne à prendre en quart de finale, l'équipe bonne à prendre en demi-finale, je ne suis pas sûr que ce soit une équipe si bonne à prendre que ça en finale, même pour le Barça.
Disons qu'Olivier, c'est un peu la troisième année de suite qu'il y a un invité surprise en finale qu'on n'attendait pas. Les quatre favoris naturels de la Ligue des Champions, c'est le Barça, le Real, le Bayern et le Chelsea. Après, il y a trois ans, donc il y a Dortmund, l'année dernière il y a l'Atlético Madrid, et cette année c'est la Juventus. C'est un espoir à chaque fois de se hisser en finale, mais on s'aperçoit que à chaque fois c'est le favori qui gagne. C'est-à-dire, il y a deux ans c'était le Bayern, l'année dernière c'était le Real Madrid, et quand même ça serait un immense incroyable raté pour le Barça s'il ne gagnait pas. Mais vous avez raison.
Avec la différence que la Juve a quand même cette histoire derrière elle que n'avait peut-être pas l'Atlético de Madrid, que n'avait pas Dortmund, et puis qu'il y ait cet alliage entre joueurs qui viennent faire un coup, qui n'ont pas coûté cher.
Mais c'est génial, parce qu'on a la meilleure attaque au monde face peut-être à la meilleure défense du monde.
Exactement. Meilleure attaque contre meilleure défense. Tevez, on l'a pas cité tout à l'heure, mais là aussi c'est un coup. Personne n'en voulait plus en Angleterre, il débarque là, et puis après, on en parlera un peu plus tard, mais il y a tous ces vieux derrière. Moi je me suis amusé à faire les comptes, parce que là, il y a vraiment de l'expérience et des gens, à l'italienne, qui peuvent la faire à l'envers.
La semaine dernière, avec 28 buts, Tevez a égalé le record de Trezeguet, première fois qu'on met 28 buts.
En 44 matchs.
Voilà.
En tout cas, on va rester un petit peu sur ce Real pour essayer de comprendre, parce qu'on avait l'impression que le Real Madrid était en tout cas favori. D'abord parce que finalement, il n'y avait qu'un but au moins à marquer pour espérer se qualifier. Et ça aurait été théoriquement à la portée de cette équipe de Madrid. Et ensuite, parce que Madrid, pour être les tenants du titre, pour avoir ébloui aussi en début de saison, semblait favori. Dominique, est-ce que la machine s'est grippée ? Peut-être, en tout cas, c'est ce dont nous parlions en essayant de comprendre. Après cette défaite face à Schalke dans leur propre stade le 24 février dernier. Parce qu'on se souvient de quart de finale du Real qui ne sont pas flamboyants. Certes, c'était face à l'Atlético qui est une équipe difficile à jouer et on le sait encore plus pour le Real. Mais on a l'impression que depuis, tout était brouillon.
Alors je pensais quand même qu'Ancelotti avait rétabli la situation, qu'il avait eu après des défaites en championnat, mais qu'il avait quand même réussi à remettre l'équipe dans le coup et à la lutte avec Barcelone en championnat. Puis finalement, là, c'est
moi je... Ils avaient cédé la première place.
Moi, je le daterai il y a 3-4 semaines. Une espèce de mélasse là, informe, le 2-2 contre Valence à domicile, il y a l'absence de Benzema, les multiples blessures de Modric qui pour moi est un joueur essentiel, le meilleur milieu du monde pour selon moi voilà, un joueur essentiel,
belle, très variable.
On s'aperçoit quand même tour après tour que le Bayern sans Robben, sans Ribéry, sans Alaba, sans Batshuayi a été éliminé, le Paris Saint-Germain sans Verratti, sans Ibra, sans Thiago Motta, Santiago Silva éliminé, le Real Madrid sans Modric, sans Benzema, Modric deux matchs, Benzema un match un tiers.
Avec la Juve qui finalement fait exception avec son Pogba qui était absent au match aller.
Mais Pogba, ça faisait 50 jours qu'ils avaient réussi un petit peu à s'adapter et ils le récupèrent au match retour. Quand on a des absents, c'est quand même très difficile. Ça ne explique pas tout le visage de ce Real quand même extrêmement surprenant.
Oui, et même décevant, on va dire. Jean-Philippe.
Non, et puis il y a quand même un truc qui a été flagrant hier, c'est que son meilleur joueur, enfin Ronaldo, qui attire tous les ballons et qui veut conclure toutes les actions. Hier, il n'était pas dans un bon jour. Et cette façon d'aspirer comme ça, de demander le ballon en permanence, quand lui, il n'est pas en réussite, et alors là, je ne sais pas, ça va être compliqué à dire, mais quand Modric n'est pas là, par exemple, Ronaldo, il a du mal. C'était le cas en début d'année.
Et quand Benzema n'est pas là aussi.
Voilà. Et là, on a quand même vu les limites d'une équipe construite presque autour d'un joueur. Le fait que y ait Ronaldo a forcé James à reculer par rapport à son poste naturel. Enfin bon, donc il y a quand même une construction du Real pour une star
trop limitée,
et quand cette star est pas sur un rendement
mais vous parliez
parfait,
de Modric,
finalement il y a tout de suite
c'est quand même incroyable que le Real Madrid qui a quand même un beau banc seulement parce qu'il manque Modric. À chaque fois on cite Modric quand
mais
même
quand
on se retrouve à
jeu,
ça
Annie, quand c'est la pierre angulaire du jeu, quand c'est l'architecte du jeu, quand c'est le Thiago Motta du Real Madrid, quand c'est très compliqué
quand
parce
que il y a Messi, quand c'est le Messi de Barcelone.
Ah oui, non, mais il y a Messi, voilà. Mais il y a aussi Busquets ou Iniesta, s'il en manque un ça va être compliqué. Donc on peut mettre Mascherano au milieu. Ils ont évidemment des solutions, mais c'est toujours très compliqué. Puis ça va être une saison blanche pour la Maison Blanche, donc il n'y aura pas de Coupe du Roi.
Alors, année blanche, parce que nos auditeurs nous critiquent en disant qu'on dit saison blanche.
Année blanche parce que
en 2015, parce qu'en 2014, d'accord. Ils gagnent alors, le Mondial
blanche,
des clubs,
ils vont ni gagner la Super Coupe européenne, ni le championnat, a priori.
Je suis d'accord avec vous.
Il y a une petite grève ce week-end.
Sauf qu'on rappelle à nos auditeurs quand même que le Mondial des clubs, c'est sur
c'est
les résultats de la saison passée.
Donc, ils disputent un match quand même et qui est une finale. En tout cas, on a beaucoup critiqué aussi Gareth Bale. Arrêtons-nous juste deux secondes. Il y a des statistiques assez intéressantes parce que on dit il a eu une mauvaise saison. 28 matchs, 13 buts, 8 passes décisives. Hazard, qui lui fait sa meilleure saison, en 35 matchs, il marque 14 buts, donc un de plus, et il fait 8 passes décisives. Pourquoi cette mauvaise sensation autour de Gareth Bale? Est-ce qu'on est sévère?
Parce que Annie,
hier, il a raté beaucoup de choses.
Les stats ne disent pas tout, les stats ne racontent pas la complémentarité entre des joueurs. Quand vous regardez la MSN, donc Messi, Suarez et Neymar, ils se cherchent en permanence. C'est un trio qui aime combiner, se trouver. Quand ils marquent, une espèce de joie collective très très importante. Je ne sens pas entre Bale, Benzema et Cristiano Ronaldo cette année 2015, puisqu'en 2014 c'était au contraire très complémentaire. On disait que c'était très complémentaire, mais cette année je vois que Cristiano hier soir fait son numéro, je vois que Bale se crée le plus d'occasions mais les rate toutes, et je vois que Benzema est sur une jambe et demie, il est sorti au bout de 65 minutes. Donc c'est voilà.
En plus, il faut se méfier.
Mais moi je veux pas brûler Bale alors que l'année dernière on disait que c'était un génie.
Génie, peut-être.
On disait que c'était merveilleusement bien adapté.
Le regard sur Bale est sévère parce que d'abord il a coûté plus de 100 millions d'euros.
Oui, on n'arrête pas de lui rappeler son prix.
Forcément, voilà.
Il y est pour rien.
Il y est pour rien, mais forcément l'exigence est supérieure. Et puis il faut se méfier des statistiques de buts et passes décisives pour une équipe comme le Barça ou le Real qui marque énormément de buts sur une saison. Donc forcément,
par rapport au
même
nombre de buts,
un rendement moyen, on se retrouve avec des des valeurs absolues hautes. Hein, enfin,
alors,
avec 13 buts, je ne sais pas combien on est dans le championnat de France. Mais
tout à l'heure, on se demandait si on avait
dans les 10 premiers, c'est sûr.
Tout à l'heure, on se demandait si on avait vu un Real faible ou une Juve forte.
Les
bon,
deux.
On a quand même vu les deux, mais aussi un Real faible. Maintenant, cette Juventus. Hier, on écoutait David Trezeguet dans un très bel italien qui nous disait « Moi, cette Juve me fait vibrer comme à mon époque, à moi, et comme à la grande époque passée, donc à peu près ces 12 ans. » Est-ce qu'on a une grande Juve, Jean-Philippe, ou est-ce qu'on a une Juve réaliste et efficace ?
Non, je crois que c'est une équipe remarquablement intelligente. Il y a une intelligence collective dans cette équipe et ça se voit dans la façon...
Eux, ils se cherchent.
Ouais, la défense est extrêmement bien huilée. Il y a vraiment une intelligence collective. Et le club en lui-même, dans ses structures, revient de très loin, hein, puisqu'il a été confronté aux affaires de dopage, de paris truqués, etc. Mais il est resté, il a survécu, et d'une certaine façon, il s'appuie sur cette histoire-là pour ne pas s'enflammer et aussi travailler de cette façon-là qui est remarquable aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est un club qui est finalement dans la continuité en Italie, alors que les autres sont en train de lâcher, le Milan assez lâche, l'Inter lâche. Voilà, on est quand même pas dans les grosses places fortes du foot italien. Il y a quand même des faillites.
Alors justement, cette équipe qui vient déjà de remporter le Scudetto, elle l'a gagné il y a une dizaine de jours avant la fin du championnat d'Italie. Eh bien, l'entraîneur Massimiliano Allegri pense qu'elle méritait de se retrouver en finale.
Nous avons vraiment mérité de jouer cette finale, car mes joueurs y ont cru jusqu'au bout. Même en ayant terminé la première mi-temps menée au score, nous avons maintenu un bon équilibre, en sachant parfaitement que tout pouvait encore arriver. À la fin de la première mi-temps, dans les vestiaires, je leur ai simplement dit de rester tranquille et calme, d'essayer de jouer un peu mieux les occasions de but. La finale est une rencontre unique, on aura contre nous 3 joueurs extraordinaires, et ce sera donc essentiel d'arriver à ce rendez-vous en parfaite condition physique. Je connais bien Barcelone, je les ai affrontés 8 fois en 4 ans, mais en ce moment je ne pense pas au triplé, seulement au match de mercredi prochain, car nous disputerons la finale de la Coupe d'Italie, qui est aussi un objectif important.
Une fin de saison incroyable en plus pour cette Juventus, parce que comme le Barça, qu'elle va retrouver en finale, ce sont les deux équipes européennes qui peuvent faire un triplé cette année.
Oui, ce qui est formidable. Alors, le Paris Saint-Germain peut faire un triplé aussi, hein,
mais national.
National. Non, c'est formidable.
J'adore vos références.
Et là, on a écouté l'architecte un petit peu de ce succès, parce que l'année dernière, ils n'ont pas passé le tour de la phase de poule avec Conte. Et il est arrivé, Allegri, et force est de constater que ça marche. En 4-4-2, on m'avait expliqué qu'on ne pouvait plus jouer au très haut niveau. En 4-4-2, lui, il le fait. Il est en finale avec Morata et Tevez. Donc,
Il a deux systèmes, en fait, hein. Et c'est sans doute le deuxième qu'il utilisera. Il a utilisé les deux hier, me semble-t-il. 4-4-2, 3-5-2 également. Quand il veut la jouer, beaucoup plus défensive. Ce sera sans doute le système qu'on verra en finale le 6 juin contre Barcelone. Mais c'est vrai qu'il est arrivé. Je crois que je disais ça, aujourd'hui, en préparant l'émission, de la part de Gianluigi Buffon. Il a su nous prendre. Il n'est pas arrivé en imposant des règles, il nous a observés, il nous a parlé, il a fait l'alliage parfait entre ceux qui arrivaient, les nouveaux, et puis les anciens. Et quand on parle de Gianluigi Buffon ou d'Andrea Pirlo, on peut dire que ce sont des anciens, il a pratiquement leur âge, hein, Allegri.
Ouais, mais c'est ça aussi ce qu'on disait tout à l'heure, l'intelligence de cette équipe, c'est celle de l'entraîneur, c'est que il s'appuie sur
pas très bien accueilli en tout cas par les tifosi au départ.
Ouais, il sortait d'un gros échec au Milan AC.
Quand on a Pirlo ou Buffon évidemment ou Evra, enfin bon c'est quand même des vieux routiers du football européen.
5e finale de Ligue des Champions pour Evra.
Voilà, donc
dans 3 clubs différents.
Et Buffon, il va retrouver le stade
de Berlin
où il était sacré en 2006, donc c'est quand même des parcours. C'est des parcours extrêmement longs, hein, au plus haut niveau. Et donc, quand on a des joueurs, pareil, l'intelligence de l'entraîneur, c'est évidemment de s'appuyer sur eux.
Et de s'adapter. C'est la fin de cette première partie de Radio Foot International. On se retrouve juste après la pause. On ira en Italie pour savoir comment, à Turin, on a accueilli toute cette nouvelle. Et peut-être les joueurs, d'ailleurs, ils ont dû rentrer.
Vous êtes en train de boire du champagne.
On se retrouve juste après la pause.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Retour dans Radio Foot International dans la deuxième partie de cette émission avec Jean-Philippe Bouchard et avec Dominique Sévrac ainsi que Olivier Pron. Et nous allons écouter comment les Italiens de cette équipe de la Juventus, les joueurs surtout, ont fêté leur victoire et leur qualification dans les vestiaires hier soir. Alors ils sont contents hein, parce qu'à l'issue de ce match donc épique arraché sur le score de 1 à Madrid, eh bien ils chantaient voilà on ira tous à Berlin. Ils
se retrouvent sur l'air des White Stripes qui ne s'imaginaient pas qu'un jour leur chanson deviendrait ça.
Et puisque vous parlez de Berlin et que Jean-Philippe a fait allusion à Berlin, c'est vrai que c'est le premier à avoir soulevé cette histoire, c'est Del Piero hier à la fin du match. Hein, Del Piero, je pense que tout le monde le connaît, nos auditeurs, l'immense Alessandro Del Piero qui disait de Berlin à Berlin en passant par la Série B. C'est vrai que c'est l'histoire de la Juve. Alors Berlin en 2006, il y a trois joueurs dans l'effectif actuel de la Juve, deux sont titulaires, c'est Buffon et Pirlo, et puis il y a, son nom, celui qui était là également, c'est Chiellini me semble-t-il, qui n'est pas rentré en jeu. Berlin, c'est la finale de la Coupe du Monde 2006 face à la France. La Série B, c'est la rétrogradation, puisqu'à ce moment-là, on apprend le scandale du Calciopoli, et donc la Juve perd ses deux derniers titres, descend en Série B avec 9 points de pénalité. Deschamps l'a fait remonter, et puis donc Berlin, c'est 9 ans plus tard, en 2015, le 6 juin. C'est vrai que c'est un raccourci, mais ça montre bien qu'on peut tomber très très bas et puis revenir très très haut, même quand on s'y attend moins. Et puis en faisant du neuf avec du vieux.
Ouais, sauf que le club a pas explosé pendant ces périodes-là.
Il est resté structuré,
redimensionné. Il est reparti sur ses bases, mais il a pas disparu. Beaucoup de ses dirigeants sont restés en place. Et donc il y a une continuité quand même dans ce club-là.
On en était à la joie des joueurs dans le vestiaire. On va justement prendre le pouls et bien de la joie du côté de l'Italie. Vous pouvez continuer à chanter, Dominique.
Je pense qu'on va demander à Matteo de chanter. Aussi. Je suis sûr qu'il chante bien, Matteo.
Bonjour, Matteo.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde. Le troisième c'est Barzagli pour.
Ah voilà. Merci beaucoup.
Vous pouvez pas nous chanter une chanson parce que la communication est un peu assez
lointaine,
on va dire, exactement. Mais Matteo, racontez-nous comment a été reçue cette qualification hier soir après le match nul arraché contre le Real à Madrid.
Ouais, ça a été une longue fête dans les rues de Turin, mais je dirais presque un peu partout en Italie, vu que la Juve est le club le plus aimé du pays. Supporters qui ont donc fait la fiesta, pour le dire à l'espagnol, et comme a titré ce matin la Gazzetta dello Sport. Une fiesta attendue 12 longues années et qui était certainement beaucoup plus chaude que celle du quatrième Scudetto. Les esprits brûlent chez les tifosi qui croient à la possibilité de remporter donc cette Ligue des Champions. La vieille dame a désormais la possibilité de réaliser un triplette, chose j'en ai réussi bien connu dans toute leur histoire. Mais pour cela, il faudra tout d'abord battre la Lazio mercredi prochain en finale de la Coupe d'Italie. Ils jouent en Rome. Et pour cette rencontre, la Lega devra choisir et décider si employer les meilleurs joueurs ou les épargnants vus du défi de Berlin. Et c'est un choix que le technicien aime faire parce qu'il ne pensait pas de devoir le faire. Donc il est bien content.
Alors en tout cas, Matteo, c'est vrai que ça faisait 12 ans, hein, 12 ans que l'équipe attendait cela. C'est aussi, on y faisait allusion, une équipe qui revient de très loin, cette équipe de la Juventus. On parlait, Olivier évoquait ce Berlin à Berlin en passant par la Série B. Cette équipe italienne a construit en plus patiemment et reconstruit patiemment en 12 ans.
A commencé par son stade.
Oui, vous avez parfaitement raison, c'est un projet qui a commencé après la Série B. Les dirigeants sont changés, il n'y a plus les Moggi et tout ça qui est remplacé par Marotte qui venait de la Sampdoria et qui ont commencé donc à construire une équipe qui est un peu un mix avec entre des vieux joueurs comme le même Buffon, Chiellini, Balzelli, etc. avec des nouveaux joueurs, surtout avec des étrangers qui pouvaient vraiment être des âmes en plus de l'équipe, voire bien entendu Tevez et Paul Pogba. Donc c'est un projet qui vient de loin, vous avez raison, et qui aboutit vraiment à peut-être à l'arrivée qui est la plus espérée.
Il faut rappeler les âges hein, pour qu'ils aient en tête. On disait tout à l'heure, Buffon, c'est quand même sa 14e saison à la Juve. Gianluigi Buffon, il a 37 ans. Il a disputé la finale de 2003, d'ailleurs, la dernière finale de la Juve, perdue. Il en était. Pirlo, Buffon, c'est presque 100 matchs en Ligue des Champions. Pirlo, il a 36 ans. C'est 114 matchs en Ligue des Champions. Il y a quand même peu de joueurs qui peuvent en dire autant. Lui, il l'a gagné. Il l'a gagné deux fois avec le Milan AC. C'est quelqu'un. Barzagli, dont on parlait, le troisième larron de la finale 2006, 34 ans. Chiellini, 30 ans, bientôt 31. Patrice Evra, on peut lui souhaiter son anniversaire. Ce sera demain, il aura 34 ans. On a là que des joueurs à vocation défensive qui ont tous pratiquement, à part Lichtsteiner qui a... Non, même lui, il a 31 ans. C'est Bonucci le plus jeune, tiens, 28 ans. Sinon, c'est bien au-delà de 30 ans, il y a beaucoup d'expérience. Et Pogba plutôt... Mais lui, très très jeune, l'extrême voilà, inverse. Voilà. Vidal n'est pas très vieux non plus. Là, on a vraiment... Mais défensivement, c'est vraiment du solide. Ouais. Evra, on disait 34 ans demain, 5e finale, il en gagner qu'une pour le moment.
Et Dominique, d'ailleurs, on peut se poser cette question sur le travail à long terme de cette Juventus de Turin. On le disait, ils ont appelé Deschamps pour les sortir de l'ornière de la deuxième division. Ensuite, c'est une équipe qui va détruire un stade pour le reconstruire, pour reconstruire aussi ses finances, pour reconstruire le budget. C'est une patience, peut-être sans aussi très grande star, dont devraient s'inspirer d'autres clubs. Évidemment, on pense à des clubs qui auraient l'ambition de disputer une finale, que sont le PSG et Manchester City, qui eux pensent que ça peut aussi passer, on peut prendre des raccourcis en mettant beaucoup d'argent.
Oui, un club qui a une histoire, qui a un passé, qui reconstruit son stade et qui fait pas le modèle 60 000 places comme tout le monde aujourd'hui dit que c'est la norme, alors que c'est plutôt 41 000. Donc voilà, c'est Jean-Claude Blanc qui aujourd'hui est directeur général du Paris Saint-Germain. Mais c'est vrai que Tevez, tout le monde s'est moqué de lui une fois qu'il a quitté Manchester City, qu'il allait jouer au golf et qu'il s'entendait pas avec Mancini. Morata, qui a marqué quand même deux buts au Real Madrid, là où il a été formé.
C'est la malédiction des anciens. Vous en avez parlé hier, hein, je crois.
Exactement.
C'est le quatrième cas quand même depuis 2004, depuis Morientes 2004 avec Monaco. C'est le quatrième cas en compétition en Ligue des Champions qu'un ancien joueur du Real marque avec son nouveau club contre le Real et que ça se termine mal à la fin pour le Real.
C'est pour ça que c'est très compliqué on ne sait jamais pourquoi on gagne vraiment la Ligue des Champions ou pourquoi on va en finale. Parlons d'aller en finale parce que la gagner c'est encore autre chose, mais c'est vrai que chaque année on dit ah oui mais il manque ça à tel club, l'expérience ou ceci cela. Là aujourd'hui la Juve aurait été éliminée, on aurait dit oui mais ils sont trop vieux. On aurait dit Pirlo, Evra, Buffon c'est trop vieux. Donc les arguments étaient réversibles. Mm-hmm. C'est très compliqué de savoir pourquoi on va en finale.
Sauf que déjà pour la Juve d'aller en demi-finale, c'est déjà un très beau parcours. Le Real, à l'inverse, c'est un club qui est programmé pour tout gagner chaque année. Et donc là, pour le Real, une saison où on fait deuxième en Liga, demi-finaliste de la Ligue des Champions,
c'est
quasiment une saison ratée, alors que pour n'importe quel club français, hormis le PSG, ça serait déjà énorme.
Et justement, vous avez raison, Jean-Philippe, parce qu'on se souvient du moment du tirage au sort, où entre le Barça, le Real et le Bayern, tout le monde voulait tomber sur cette Juventus. Et les joueurs en avaient conscience. Écoutons Giorgio Chiellini faire allusion à cela.
Au début de cette saison, personne ne croyait en nous, même pas au mois de janvier. Ces derniers mois, on a très bien progressé et maintenant il y a une ambition différente au niveau européen. Même quand on a été mené au score, on a toujours fait notre travail, convaincu que le résultat pouvait changer en notre faveur à un moment du match. Voilà, maintenant on est en finale, le cœur battait très fort dans les derniers instants de la rencontre et il battra encore plus en vue de la finale à Berlin. Et désormais, on veut rêver tous ensemble avec nos tifosi car on sait qu'on a des chances de gagner le trophée.
Voilà, quand on a la chance en plus de remporter le trophée, évidemment, on va y venir et on l'analysera beaucoup, cette cette perspective. Mais vous disiez tout à l'heure carrément, Dominique, vous pensez quand même que le Barça c'est au-dessus.
Oui, je me dis que sur les deux précédents, c'est-à-dire un petit peu les surprises Dortmund et Atlético Madrid, dont on a réussi à expliquer, mais après coup les succès, je me dis que la Juve va tomber contre le favori, que le Bayern et le Real ont fini par s'imposer, que Barcelone, ça a l'air d'être son année avec ce trio infernal, peut-être inédit dans l'histoire du football. Le Ballon d'Or a été réglé hier soir pour moi. Messi l'aura, donc ça ne jouera pas. Il n'aura pas la pression de se dire il faut que je fasse basculer le match parce que il a éliminé Cristiano Ronaldo de la course. Mais ce trio-là est injouable, même malgré Chiellini, malgré Barzagli, malgré Patrice Evra, malgré Steiner, malgré Steiner, Pogba, Morata, etc.
Non, mais c'est vrai que le Barça, on l'a vu au match aller contre le Bayern. Ils ont un joueur hors du commun qui pratiquement à lui seul est capable de faire basculer une rencontre jusque-là équilibrée. En 10 minutes, il transforme le sort de la rencontre. Donc ça, c'est sûr que la Juve n'a pas ce joueur-là.
Mais elle défend mieux que le Bayern, la Juve.
La Juve n'a pas ce joueur-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les joueurs expérimentés de la Juve, ils sont pas satisfaits d'arriver en finale. Ils ont suffisamment d'expérience pour pas se faire emporter par l'événement, pour pas... Qui les intéresse, un Buffon, un Pirlo, ce qui intéresse,
Buffon,
c'est gagner.
Ça lui manque en plus à son palmarès. Lui qui a déjà un énorme palmarès, il n'a jamais gagné cette Coupe d'Europe. Donc
il a joué une finale en 2020.
Voilà.
Et en plus, la Juve est plutôt maudite en finale parce que
elle en a perdu 5 sur 7.
Voilà. Ça serait un immense espoir. Ça serait incroyable.
Alors, je vais pas failloter, mais il m'arrive d'en dire parfois du mal, mais je vais citer un journal de votre groupe, messieurs. L'Équipe ce matin est un petit jeune qui débute, Vincent Duluc.
Oui.
Vous connaissez pas trop ce nom-là. J'adore les dernières lignes de son papier du jour, puisqu'on parle de la finale. Schématiquement, ce sera un match entre l'organisation et le génie, entre une équipe qui ferme les espaces et une qui les invente, entre l'Italie de toujours et le Barça du 21e siècle, vivement Berlin. Je trouve que c'est très très bien résumé et que c'est à peu près décor est planté.
On s'en va.
Au revoir messieurs, merci d'être venus.
C'était sympa.
Amenez-nous Vincent Duluc.
Alors justement, moi j'ai une question à poser à Matteo. Matteo, vous avez entendu tout ce que l'on dit déjà un peu sur cette finale et on aura l'occasion d'y revenir. Moi je voudrais savoir si en Italie ça amuse déjà le fait qu'on aura un face-à-face qui a beaucoup attiré la lumière durant la Coupe du Monde, c'est ce face-à-face entre Luis Suarez et Chiellini.
Et pas seulement, parce que la double retrouvaille qu'attend Suarez, qui donc aura en face de lui deux anciens potes, Chiellini et Evra, à mon avis, vaut déjà le prix du ticket de la finale. Hein. On a hâte de savoir ce qui se passera entre la.
On rappelle, il faut rappeler, parce que pour nos auditeurs, c'est Suarez, c'est Chiellini, c'est le fameux qui a été mordu par le vampire Suarez lors de la Coupe du Monde, pour bien recontextualiser.
Et il y a aussi une histoire avec Evra.
Et Evra avait eu un problème avec Suarez, des problèmes d'insultes.
Oui,
d'insultes racistes.
Un caractère racisme.
Négro.
Et donc là, oui, on se demande si le requin refera surface, donc, et si cette fois il sera à la main du Français après les insultes racistes qu'il lui avait lancées lors du match Liverpool-Manchester United. Donc la réponse, on la connaîtra les 6 juin prochain, mais le même Evra a déjà déclaré que cet épisode est pour lui déjà oublié, tandis que Chiellini ne s'est jamais exprimé sur la fameuse morsure reçue au Brésil. Au contraire, il y a quelques semaines, Suarez a déclaré qu'il considère l'Italien provocateur et un des personnages les plus irritants qu'il a connus dans sa vie.
C'est l'hôpital qui se moque de la charité, on est là chez nous.
Oui, en effet, donc la paix entre les deux n'a été jamais signée. Hein.
Oui, mais on se souvient quand même. On se souvient quand même que Chiellini, au moment où il y avait eu cette sanction qui est quand même énorme, puisque Suarez ne disputera même pas la Copa América, il avait quand même défendu un peu Suarez en disant je pensais pas que ça méritait. Enfin, j'ai à peine une marque sur l'épaule. Il n'en avait pas rajouté, en tout cas, contre Luis Suarez. Oui. Merci beaucoup.
Il faut qu'il fasse gaffe sur lui, parce qu'il pourrait être suspendu beaucoup plus lourdement s'il le recommence. Hein.
Oui, ça. Mais on a l'impression qu'il est plus calme. On ira voir du côté de Barcelone un jour s'il s'est calmé.
Si seulement.
S'il a pris des cours de psychologie. Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en ligne avec nous. À très bientôt.
Bravo.
Merci à vous.
Bravo aux Italiens qui sont
de la part d'un Milanais, c'est plutôt pas mal de défendre des Turinois. Si yo fuera Maradona,
perdido. La vida es una tontuna. Maradona perdu quelque part. On a changé de continent. On est en ligne avec Carlos Bianchi. Et avant d'évoquer ce super classico, je voudrais quand même le saluer. Bonjour Carlos Bianchi.
Ça va Annie, bonjour.
Très
bonjour.
Bien.
Comment allez-vous?
Très bien, Carlos. Alors Carlos, on est avec Dominique Sévrac du Parisien et Jean-Philippe Carlos. Bouchard du
bonjour,
journal L'Équipe.
Et en compagnie du Rémois, ne l'oubliez pas Annie.
Bonjour tous, allez, on a gagné l'extérieur samedi. Hein.
Ah, c'est là où je voulais en venir.
il faut battre Rennes samedi prochain.
Oui, ouais. C'est ça, on est d'accord.
On sera Auguste Delon d'ailleurs, Carlos. Carlos, un petit commentaire de votre part sur cette affiche de la finale de la Ligue des Champions. Qu'en pensez-vous depuis Buenos Aires?
Que ça va être un match très tactique. Barcelone, il va jouer comme joue Barcelone, essayer d'avoir le ballon tout le temps. Et la Juventus, ça ne les plaît pas parce que eux, quand ils jouent contre, ils jouent mieux que quand ils dominent. Je pense que ce Barcelone-là, il n'est pas le même Barcelone d'avant, parce qu'aujourd'hui, c'est très difficile de le prendre à contre-pied. Et ils sont toujours bien placés défensivement, même quand ils s'attaquent. Et en plus, Barcelone, aujourd'hui, utilise beaucoup plus le contre-attaque que l'attaque, des fois, parce que les deux buts qu'ils marquent l'autre jour contre Bayern de Munich, c'était deux buts de contre-attaque.
Exactement.
Oui, c'est vrai.
Oui, oui. Et est-ce
que... grosso modo, Barcelone sait tout faire, vous dites, Carlos, quoi.
Écoutez, quand vous avez des attaquants que le moins cher, ça coûte 100 millions d'euros.
Ce serait dommage qu'ils ne sachent pas tout faire.
C'est comme si on met dans une cuisine à Alain Passard, Pierre Garnier et Trois Gros.
On voit tout de suite les références. Ah, oui. Les références de Carlos.
Ah, ça donne envie. Ça fait un bon repas.
Carlos, en tout cas, vous imaginez la Juve se qualifier pour la finale?
Attention que la Juve, déjà, c'est la quatrième fois qu'il est champion d'Italie et de suite. Et Allegri, il a hérité d'une équipe qui venait d'être champion, qui s'arrêtait en huitième ou en quatrième de finale, en quart de finale, mais c'est une équipe qui devient de plus en plus forte. Mmh. Et je pense qu'il est bien mérité la qualification pour la finale. C'est une équipe qui a plein des internationaux italiens, et ceux qui ne sont pas des Italiens sont des internationaux dans leur pays. Mmh. Alors ça veut dire que c'est une sacrée équipe aussi.
Oui. En tout cas, il n'y aura pas de classico en finale de Ligue des Champions, mais par contre, il y aura un classico à Buenos Aires ce soir, et même un super classico, et c'est le troisième en 10 jours, puisque les deux plus grands clubs d'Argentine se sont rencontrés en championnat il y a une dizaine de jours. C'était alors une victoire pour Boca Juniors de 2-0 à la Bombonera dans son stade, et puis jeudi dernier à l'Estadio Monumental du quartier de Belgrano, donc à Buenos Aires toujours, et bien dans le cadre de la Copa Libertadores, qui est l'équivalent d'une Coupe d'Europe en Amérique du Sud, et bien là, c'était River qui l'avait emporté sur le score, pardon, de 1-0. Ce retour, donc ce soir, match retour, au milieu de la nuit, hein, pour les Français, je crois que c'est 2h du matin, pour une place, et bien, en quart de finale de la compétition. Boca Junior peut-il remonter son retard d'un but, selon vous, Carlos Bianchi?
Vous savez que moi, j'ai vécu la même histoire.
Oui.
Et l'année 2000, nous avons fait match nul chez nous, un partout. On a perdu un championnat. 3 jours plus tard, on a perdu 2-1 chez eux. Et une semaine plus tard, on les a battus 3-0 chez nous. Et aujourd'hui, c'est la même histoire presque, parce que Boca, il a gagné le match de championnat, il a perdu le match de la Coupe. Et tout c'est possible parce que la meilleure équipe, le meilleur groupe de joueurs, c'est Boca qui les a au ce moment en Argentine. Il a deux équipes et vous savez pas lequel il est presque titulaire. Alors ça veut dire que en principe il a les capacités, il a les joueurs pour se qualifier. Mais ça dépendra aussi de River, que River il vient avec un but d'avance, et il va pas jouer de la même façon qu'il a joué à River. Il va jouer beaucoup plus défensif. Il faut voir si Boca il trouve la faille.
On sait que Boca Juniors fait en ce moment une bonne campagne dans le championnat, ce fameux championnat où il y a 30 équipes. Est-ce que Carlos Boca a un avantage au moins par rapport à ce bon comportement en championnat?
Boca, est, pour moi, normalement, il a une équipe pour gagner la Coupe d'Amérique, la Coupe de Libertadores et le championnat. Ça dépendra à un moment. Le championnat, il est plus facile de le gagner que la Coupe, parce que le championnat, il est à 29 matchs. Et à la longue, c'est lui qui est plus fort, il est fini pour être premier. Par contre, les matchs aller-retour, c'est 180 minutes. Si vous dites aujourd'hui, la Juventus, il est plus fort que le Real Madrid, et oui, parce qu'il s'est qualifié. Mais pendant une heure, celui qui était qualifié, c'était Real Madrid.
Mmh. Non, mais alors, comment vous les voyez-vous, ces deux équipes? Il y en a une qui, en ce moment, paraît plus forte que l'autre?
En principe, Boca, elle est plus forte que River.
D'accord.
Mais il faut le jouer, le match. Comme je dis toujours, Boca, il a toutes les possibilités pour se qualifier. Mais il faut voir maintenant s'ils sont prêts à faire la différence pour se qualifier.
Dominique a une question pour vous, Carlos.
Oui, Carlos, est-ce que vous, pour faire le lien entre les deux sujets, la Ligue des Champions et Boca, est-ce que vous pensez que Tevez va revenir à Boca, puisque c'est ce qu'on entend partout? On sait que la Juve piste plus ou moins Edinson Cavani pour faire la doublette avec Morata. Donc, est-ce que vous pensez qu'après cette finale de Ligue des Champions, Tevez pourrait aller à Boca?
Et moi, je peux pas le savoir. Et attention que lui, il a un contrat jusqu'à 2016. Hein,
oui.
Et je crois pas que la Juventus, il va laisser partir un joueur comme Tevez, comme ça, je sais pas, franchement, je peux pas dire.
Non, parce que c'est surprenant, il a que 31 ans, on le voit encore rester en Europe plusieurs années, quoi.
Lui, il peut jouer, c'est sûr, mais ça dépendra aussi, il est parti très jeune, et il faut voir aussi que, n'oubliez pas que Platini, qui était parti 4 ans ou 5 ans en Italie, il a arrêté à 32 piges.
Oui, mais le foot a changé quand même.
Et alors?
Oui, surtout qu'en Italie, finalement, on aime bien garder des joueurs qui ont passé 30 ans. Une question sur ces super classicos, ces affrontements entre Boca et River qui s'enchaînent. Carlos, ici, on ironise un peu. Je me souviens d'une saison, il y en avait eu 5 en Espagne. Et là, on en a 3 en quelques jours. Est-ce que c'est considéré comme lassant en Argentine?
Non. Non, c'est pas lassant. C'est très énervant parce que on dépense beaucoup d'énergie, pas seulement physique, sinon mentale aussi. C'est trois matchs. Vous savez, on dit que Boca il a 40% de supporters et River 30%. Ça veut dire que 70% du pays il est en train de regarder le match. C'est facile à répondre.
Donc il y a une polarisation et pas de lassitude.
Ça veut dire quoi concrètement, pardon Annie, mais ça veut dire quoi? On la sent cette ambiance dans les rues aujourd'hui? Ça se traduit comment? Nous on en fait des caisses
sûr,
avec notre classico à deux francs.
Mais bien sûr, il y a messieurs qui s'approchent le match, plus les gens ils commencent à vivre. Ce que c'est pas beau, moi je dis, en Argentine depuis 2 ans, 3 ans, je sais pas, et les supporters qui jouent à l'extérieur, ils ne peuvent pas participer de la fête. Ils ne peuvent pas participer du match. Ils ne peuvent pas aller voir son équipe à l'extérieur.
Mmh, donc il n'y aura pas de supporters de River.
Quand les supporters River aujourd'hui, ils n'ont pas le droit d'aller à Boca.
Ah.
Et ce n'est pas beau parce que quand on voyait un River Boca et un Boca River, c'était extraordinaire quand il y avait la moitié d'un stade qui criait pour une équipe et la moitié pour l'autre. C'était très beau. Et aujourd'hui, on ne le voit plus. Mais c'est le manque de sécurité qui existe ici dans le football argentin.
Et oui,
ça, on connaît, nous.
La violence, oui, mais là-bas, ça a d'autres proportions. Oui. Vous irez à la Bombonera ce soir, Carlos?
Non, je reste tranquille à la maison.
On voit mieux à la télé, hein?
Eh oui, bien sûr.
En tout cas,
on voit des choses qu'on voit pas au stade, des fois.
Et inversement.
Carlos, dans cette compétition, les deux grands clubs brésiliens, les deux grands clubs en tout cas de Sao Paulo, se sont fait éliminer hier soir, le Corinthians par le Guarani du Paraguay, et puis Sao Paulo.
J'ai vu les deux matchs.
Oui, et Sao Paulo par Cruzeiro, l'équipe de Belo Horizonte.
Oui.
Cruzeiro en plus pourrait rencontrer ou Boca ou River au prochain tour en quart de finale de cette Copa Libertadores.
Oui, j'ai vu les deux matchs. Cruzeiro, il s'est qualifié bien, il méritait de se qualifier. parce que le gardien de Cruzeiro, il n'a pas arrêté un seul ballon pendant les 90 minutes. Et j'ai vu l'autre match aussi de Corinthians, qu'il a fini à 9. Mais il avait mal démarré déjà l'éliminatoire, parce qu'ils avaient perdu 2-0 à l'extérieur. Et Corinthians est une équipe assez forte, avec un très grand entraîneur comme Tite, qu'il a gagné la Coupe de Libertadores, mais hier, ils n'étaient pas là, et Guarani s'est qualifié contre toute l'attente des supporters de Corinthians.
Ah oui, ça, contre le Guarani, il ne devait pas être favori. Tite, on le rappelle, il a aussi gagné le Mondial des clubs, hein, c'était ce titre qu'ils avaient remporté, si je me rappelle bien, contre Chelsea, hein, il me semble, en Mondial des clubs. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous d'Amérique du Sud, Carlos. Et puis, bien, on se retrouvera, on commentera peut-être le début de la Copa América, parce que ça commence bientôt, là, la fête au Chili.
Le 11, le 11, mais avant, il y a la Coupe des Champions. Hein.
Oui, bien entendu, mais ça, on y reviendra, nous, ici, dans Radio Foot. Merci beaucoup, Carlos, très bientôt.
Merci à vous, et si vous voulez, je vous envoie un peu de soleil, parce qu'il fait 20 degrés en plein automne.
Ah oui. Ah bah écoutez, ici c'est le printemps, mais on dirait pas aujourd'hui.
Et puis des ondes positives sur Delaune samedi, surtout.
Oui.
Oui, samedi, ça va aller. On va s'accrocher et on va prendre les 3 points qu'il faut.
Il vaut mieux, parce qu'après, il joue au Parc des Princes contre le PSG, là ça sera compliqué.
Mais ça s'est suffit avec les 3 points contre Rennes.
Exactement.
Merci beaucoup, Carlos, d'avoir encore cet œil attentif sur tous ces clubs et sur...
Merci à vous. À bientôt, et ça a été un plaisir.
À très bientôt. Ciao. Carlos, merci. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir commenté aujourd'hui avec nous cette actualité sportive. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. À la réalisation, il y avait Abdel Marzouk, aidé d'Antonin Dulé et de Solal. Un petit futur. Il est déjà très bavard sur le foot.
Un jeune qui débute.
On se donne rendez-vous demain dans le Café des Sports. Merci.